me référer jamais à ces œuvres ultérieures. Donc, quand j'ai connu Valère, je l'ai connu à travers le manuscrit de la vie des classes dangereuses. J'ai été complètement fascinée par cette œuvre. Elle m'a occupé l'esprit de lecture depuis 40 ans. Mais j'ai eu envie de revenir sur ces trois premières œuvres avec l'esprit dans lequel je les ai lues la première fois, rencontrées la première fois, en écrivant ce petit texte, sans penser à ce qui vient après. Voilà. Donc j'aurais pu l'intituler ce texte « Naissance d'une œuvre », par exemple. Mais c'était surtout naissance de ma propre lecture de Valère Noarina. Voilà, donc, de l'Atelier volant, écrit entre 68 et 70, publié pour la première fois en 1971 dans la revue Travail théâtral, jusqu'au Drame de la vie, publié chez Paul en 1984, se lisent les prémices, puis la mise en œuvre de la singulière relation que Valère Noarina entretient avec le théâtre. Seul, de ses premières œuvres, l'Atelier volant se contraint méticuleusement aux nécessités matérielles de la représentation. Sa longueur, l'abondance et la complexité matérielle de la représentation. L'abondance et la complexité des dialogues animent jusqu'au vertige une intrigue centrale, à l'opposé, squelettique, comme la prise de pouvoir du Père Ubu sur la Pologne, et monter la pièce dans sa totalité, dialogue et didascalie comprise, pourrait donner lieu à un spectacle d'une drôlerie et d'une énergie inouïe, mais serait un défi lancé à la résistance physique et mentale des acteurs aussi, et aussi vraisemblablement du public, tant elle est rythmiquement rapide et abondante en dialogue, jeu de scène, etc. Quand Valère l'a monté récemment, il n'a pas monté les didascalies. Mais si on respecte, comme on montre quelquefois Beckett, en respectant scrupuleusement les didascalies, je pense que le spectacle serait absolument hallucinant de dynamisme et d'indications scéniques extrêmement nombreuses, de déplacements, de déguisements, etc. Avec le Babil des classes dangereuses, l'écriture s'affranchit totalement des contraintes aussi bien spatiales que temporelles d'une représentation. Tout en conservant dans sa forme les conventions de l'écriture dramatique, le Babil poursuit la déconstruction de la langue qu'annonçait l'acte final de l'Atelier volant. Dans la lutte des morts, enfin, Noarina s'enfonce dans une expérience extrême, aussi psychique que littéraire, dans laquelle s'affirme la pensée et la poétique qui se déploiera dans l'œuvre tout entière. Ces trois œuvres fondatrices annoncent la venue des 2587 personnages du drame de la vie, propulsés dans un stade d'action, polyèdre extensible à l'infini, de 100 mètres sur 100 mètres sur 100 mètres sur 100 mètres, etc. L'écriture s'ouvre ainsi à une expansion spatiale sans limite et s'installe dans le présent perpétuel du devenir. Réalisant cette vérité linguistique que tout ce dont nous disons le nom manque, formulé plus tard dans Devant la parole, les personnages, ou plutôt les noms, sans personne dedans, ignoreront désormais la parole singulière dans une spirale respirée hors du monde représenté. À l'éloignement qui s'élargit entre l'écriture et la possibilité de la représentation scénique, André Marcon viendra mettre fin par une unique représentation du monologue d'Adramelec, extrait du Babil des classes dangereuses, qu'il donne dans le cloître du Palais Vieux à Avignon en 1985. Acteur providentiel, il se fait le déchiffreur inaugural de cette novlangue dense et inaccessible dont les premiers lecteurs ne disposaient pas des oreilles qu'il fallait pour l'entendre. À partir de ce mémorable passage sur les planches, sinon premier, du moins déterminant, Valère Noarina a travaillé à adapter son écriture aux contraintes de la représentation et a poursuivi, sans rien y retrancher de son absolue singularité, les perpétuelles variations de sa parole dans les pièces écrites directement pour la scène ou écrites ou extraites des livres matrices que deviendront le drame de la vie, le discours aux animaux, la chair de l'homme, je suis, etc. La création et le succès de l'opérette imaginaire en 1998, écrite à la demande de Claude Bugeval, est l'occasion d'un nouvel infléchissement de l'œuvre vers un condensé burlesque, essentiellement rythmique et musical, sans gras théâtral, ossature et forme cruelle du théâtre, écrit-il dans Devant la parole, dans lequel les acteurs réaliseraient une sorte de conjonction de Louis de Funès et de Buster Keaton. J'ai choisi pour ma part d'approfondir les premières œuvres parce qu'il me semble y lire la naissance d'une pensée créatrice à ce point singulière qu'on se tromperait à l'inscrire dans un genre, car elle est au croisement d'un vaste réseau, parfois contradictoire et même souvent contradictoire, d'œuvres et de pensées dont on ne finit pas de dérouler les fils entremêlés entre littérature, théâtre, linguistique, théologie, psychanalyse, physique, métaphysique et même pataphysique. J'ai intitulé la première partie sur l'atelier volant, la dérive des luttes. L'atelier volant est la seule des œuvres, hormis celles qui seront plus tard écrites ou adaptées pour la scène, qui répondent aux règles et usages de l'écriture dramaturgique. Elle a pour sujet, comme chacun sait, la lutte des classes dans le conflit qui oppose le couple des boucaux à leurs 6 employés avec la complicité incertaine du docteur. Le nombre des personnages est raisonnable eu égard aux contraintes économiques de production théâtrale. Le dispositif scénographique unique permet de dispenser la mise en scène de de lourds changements de décor. Il se compose d'un atelier, de 3 maisons, d'une estrade en hauteur, utilisée à la fois comme maison du couple Boucault et podium où Boucault prononce ses discours, harangues et autres boniments de manipulateurs de foule. L'action se déroule en 3 journées, avec alternance 2 jours et 2 nuits, bien que la troisième se dissolve quelque peu dans l'imbroglio des derniers actes. Dans la dédicace de mon exemplaire de la réédition de l'atelier volant en 2010, Valère Novarina a fait un dessin. A fait un dessin où l'on voit Boucault conduisant un animal difficilement identifiable, accompagné de la légende, Boucault introduit un cheval de Troie dans les luttes. Elle résume en quelques mots ce qui se joue dans la pièce quand à la lutte sociale se substitue le combat de l'œuvre, sa raison d'être et ce qui la propulse, la guerre de la parole contre une langue réduite à servir d'outil à l'économie générale des échanges de l'homme socialisé. Dans cette lutte, Christian Prigent, dans un entretien avec Marie-Hélène Coquelard, voit l'origine même de la littérature et au plus haut degré de la création poétique. Elle naît, écrit-il, de l'incapacité contre les autres façons de parler dans le contrat social verbalisé, toutes les autres formes de discours scientifiques, philosophiques, etc., de dire avec justesse la singularité de l'expérience sensoriellement, je le cite toujours, sensoriellement chaotique et intellectuellement inorganisable que chacun de nous fait du monde. Et il ajoute que ce contrat verbal est idéologique, car il impose une vision du monde telle que de façon dominante se le représente une époque. L'atelier volant n'a donc pas grand-chose à voir avec la lutte des classes, telle qu'elle s'exposait abondamment sur les scènes de théâtre à l'époque de son écriture. La stylisation ubuesque dans laquelle se joue la mécanique répétitive du travail, de l'exploitation de la main-d'œuvre, de la consommation et autres crises économiques n'occupe guère que les 3 premiers actes. Dans les tableaux suivants, l'abondance inhabituelle des didascalies étoffe peu à peu l'intrigue centrale de multiples jeux de scène, petites danses, déguisements à vue, intermèdes, scénettes, pantomimes. Les employés cessaient, peu à peu, à une parole nouvelle née avec la rouglardise de l'enfance. De leurs dialogues novices éclosent parfois des échappées de monologues dans lesquels ils cessaient à exprimer leurs pensées et leurs émotions balbutiantes sans disposer de la langue pour la dire. Alors, ils l'improvisent, à l'exemple de l'employé B à l'acte 4. Je vous donne l'exemple de la carte postale. Chère Thérèse, je passe ici quelques instants trop brefs de loisirs profitables, bien loin du tumulte et des griefs de Paris. Je suis couchée, les vagues montent les unes sur les autres et la mer roule son ventre. Excusez-moi. Les vagues montent les unes sur les autres et la mer roule son ventre. Je suis aspirée, désarmée, sous son nom. Je suis dans l'eau et ses tétons. Ô nature, ouvre ta besace. Alors elle me prend, elle m'emporte et ferme son cercle blanc. Oui, chère Thérèse, je vois là-bas mourir quelques chats ou bêtes, faire des bonds d'animal là-bas et tomber, danser et sauter au fond. Regarder autour et tomber. Peut-être qu'ils se serrent entre leurs pattes, puisqu'ils serrent l'eau entre leurs pattes, puisqu'ils tombent dans l'eau. Une centaine, au moins, peut-être plus, ce sont des oiseaux. Peut-être qu'elle les tient groupés, dans sa voix apparaissent pas toujours des poissons, groupés pour mourir, et ils s'en vont groupés, sortant de la gorge de la reine, je dirais peut-être immobile et silencieuse, car on peut toujours se demander si quelque chose est sorti de là où il va. Mais j'arrive maintenant à la fin de ma carte et il me faut te dire adieu car quelqu'un vient de m'appeler et il va sans doute être l'heure du repas. J'ai beaucoup pensé à toi lundi, ça me ferait réellement plaisir que tu réussisses ton permis de conduire. Tu peux m'envoyer un mot ici, mais dépêche-toi car je ne suis plus pour très longtemps. C'est au tableau 6 que la lutte bascule avec la grande séance d'explication annoncée par Boucault, au cours de laquelle les employés sont soumis à une extravagante manipulation populiste dans des concours de savoir perdus d'avance, des jeux de charades insolubles, des tentatives oratoires dans lesquelles ils se prennent les pieds sur la tribune. Dans les actes suivants s'enchaîne un imbroglio de scènes extravagantes, parmi les plus virtuoses desquelles, par exemple, on voit Madame Boucault, Vénus publicitaire déguisée en affiche, exercer son érotisme exacerbé et observer ses effets sur l'employé A atteint de somnambulisme. L'employé A, ancêtre des personnes à venir, des personnages à venir, occupe le centre de l'acte 10 et dernier. Solitaire, juché au sommet d'un mât, il lance le grand défi final de ses vociférations détraquées. Les Boucaux et le docteur mêlés aux employés rassemblés autour de lui, le somment de s'expliquer clairement et de descendre rejoindre le groupe des bien-parlants. Il finit par descendre, mais cette fin n'est que provisoirement pessimiste. Dans la lettre aux acteurs écrite pendant les répétitions de l'atelier volant lors de sa création en 1974 dans une mise en scène de Jean-Pierre Sarrazac, Novarina donne aux acteurs d'inhabituelles indications sur les personnages. Il en développe sa conception non pas par des compléments d'informations dramaturgiques, car ce n'est pas ce qu'il en dit, mais la façon dont il le dit, qui forme une sorte de tremplin sur lequel les comédiens sont invités à prendre leur élan rythmique, articulatoire et respiratoire pour en poursuivre la trajectoire. L'extrait qu'il donne de Madame Boucault. Madame Boucault, un lapsus du patron. Fuite de Boucault. Boucault en fuite. boucau fou, jet de vapeur sirène. Ces vapeurs sont chants de sirène, son chant de sirène, aérophagie, musique, anarchiste, prévoyante, somnambule, voyante, revenante, passagère, dormeuse, extralucide, ivre en promenade. Les larmes sincères qu'elle verse tout en poussant au crime. Madame Boucaud, siffleuse, berceuse, chuinteuse, mère infanticide, sous-hypnose, hypnotisée et hypnotisant, possédée, penchée, en larmes saignant l'enfant. À l'acteur de poursuivre le chemin. La lettre aux acteurs nous donne les prémices de ce qui fait la singularité de l'œuvre au-delà de la poétique exprimée par Tristan Tréjean. Il s'agit dans cette lutte contre le système de reproduction court, je cite Valère sur cette expression, de restaurer le corps comme source originelle de la parole. Je le cite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui dominent, madame, ont toujours intérêt à faire disparaître la matière, à supprimer toujours le corps, le support, l'endroit où ça parle, à faire croire que les mots tombent tout droit du ciel dans le cerveau, que ce sont des pensées qui s'expriment, pas des corps. C'est pour étouffer le boucan des corps par où ça monte, qui va les renverser. La deuxième partie, à propos du babil des classes dangereuses, je l'ai intitulée « D'une écriture pour à une écriture vers le théâtre ». Dans le babil des classes dangereuses, le cheval de Troie introduit par l'atelier volant lâche ses lutteurs et les classes dangereuses passent à l'acte. L'action du babil, elle est exprimée dans cette réplique d'oreille adressée à bouche au début de la deuxième partie. « Oui, chère bouche, le babil des classes dangereuses menace notre langue, ils donnent trop de leur voix, hors de piste, déversent leur hurlat. Nous conversons et échangeons nos mots. Oui, ce bruit sans cesse refait de bruit de faux empêche nos pratiques. » Ce babil, en effet, attaque la logique du sens, crevasse le socle représentatif du langage et fait éclater toutes les dimensions du théâtre. La liste des personnages compte 282 noms. L'espace illimité de l'imaginaire et sa béance sur l'impossible se substitue à toute forme de construction scénographique possible. L'employé A, ancêtre de tous les personnages à venir, semble réapparaître sous le nom d'Anterne et poursuivre sa verbigération finale de l'atelier par ces mots définitifs inauguraux lancés dès la première réplique, Gerbert Staffon, Sacron Canard. Suit une longue didascalie qui introduit l'œuvre par ses mots. Le spectacle représente l'acteur au travail. Écrite en langue qui fourche, il manque des voyelles, il y en a quelques-unes en trop, elle ouvre un nouvel abîme en avançant l'idée d'un spectacle qui se représente lui-même et fait reculer à l'infini la chose représentée. Ce spectacle d'une écriture en chantier se débarrasse par étapes des contreforts rationnels du théâtre, comme genre, pour ne garder que le premier sens du théâtre, théatron, comme lieu. L'œuvre s'ouvre sur un parcours dans un lieu de nature indéterminée, mais qui se visite comme le jardin de Martial Cantorel dans l'Opus Solus de Raymond Roussel. Des groupes, d'abord des enfants anciens, puis des adultes, puis des bruyantes personnes visitent les stations du cabinet des vapeurs. Ce qui se donne à voir dans ce parcours plonge le lecteur-spectateur dans l'univers inquiétant du faux dévoilé en cours de dévoilement. Les stations annoncées et décrites alternativement par la voix anonyme des didascalies et par les deux personnages qui guident successivement la visite manifeste, comme les machines à fabricants du vivant artificiel dans l'Opus Solus, une troublante instabilité dans leur existence de choses ou de chaînes représentées, en franchissant indifféremment dans un sens ou dans l'autre la frontière qui sépare l'inerte de l'animé. Ce qui donne lieu à des spectacles réjouissants, mais empreints d'une inquiétante étrangeté, dans lesquels la fiction se retourne en passage à l'acte et le réel s'anéantit dans le simulacre. J'en lis un extrait, mais c'est assez difficile. En 4-5 pages, le début du Babil est assez époustouflant. Cette visite du cabinet des vapeurs, c'est quelque chose de très impressionnant et très difficile de choisir l'extrait. Donc, je commence par une didascalie qui prend en cours de la visite. Les écoliers, accompagnés par le principal Talon, les professeurs Uri, Prigent et le gardien Labus, vont dans la crèche et disparaissent par la porte du fond. Un groupe d'adultes vient de tout voir, viennent d'assister impuissants à la sortie des enfants par la porte du fond. C'est Jandot qui dirige la visite. Jandot. Ces enfants morts d'accident, nous les retrouverons dans le tableau suivant, très vite et très bien vivants, car ils nous ont précédés. S'il vous plaît, passez par là sans déranger. La chaleur, je l'avoue, est ici étouffante. Et voici la machine à vapeur telle que la vit René Papon. On voit la Seine. Et l'enfance de Pétron. On voit la Seine. Tout décor est démoli. Pétron, de tous les poètes le plus bête et le plus con, car il ne jamais trouva la rime qu'il fallait mettre à Corbillon, car il était son propre nom. Ces trois marches à nos pieds nous conduisent à la scène suivante. Le spectacle représente une scène de genre. Il tire le rideau. Attendons les paroles. On y voit aussi des tableaux vivants qui servent de modèle à des peintres, des cinéastes ou des artistes qui tentent de les reproduire. À l'exemple de ce peintre Tropman qui, pour mieux capter l'expression du Christ au moment de son agonie, plante un couteau dans le sein de son modèle qu'il a précédemment crucifié pour donner plus de vérité à la scène. Le principe de vraisemblance éliminée, c'est le vieux théâtre classique qui perd son fondement théorique et s'anéantit dans les coulisses éventrées et les décors délabrés au milieu desquels les scènes sont perçues dans un lointain indécis à travers le télescope de plusieurs regards superposés. Celui du récitant anonyme qui parle dans les didascalies, celui des personnages qui guident la visite, celui des groupes qui font le parcours sans jamais commenter ce qu'ils voient. Ce parcours du voir va peu à peu se dissiper dans l'espace de l'entendre qui, à la fin de la première partie, passe au premier plan. Les déguisés s'approchent et tout s'éteint, nous informe une didascalie. Des voix sans nom s'élèvent dans l'obscurité, annonciatrices du Babil à venir. Puis la visite reprend son cours jusqu'à ce que l'espace ne soit plus creusé par les strates des regards, mais par le croisement des voix qui parlent dans une complexe configuration polyphonique rythmée par les entrées et les sorties des personnages. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ce n'est pas la question. La bonne question, c'est la lettre aux acteurs qui la pose et y répond. Je cite. Qu'est-ce qui parle chez eux ? Réminiscence, bout d'enfance faux, accès, révolte, micmac, zigzag des cœurs, poussée de faux souvenirs, mille vies, bouffée de faux raisonnements et surtout, évanouissement, syncope, chute libre. Blanc dans tout ça, blanc dans la parole. Ce qui parle dans le Babil, c'est en son centre, c'est aussi le long et célèbre monologue d'Adramelech qui rassemble dans son lamento furibard et indigné une sorte de biographie universelle des personnages. L'atelier volant avait déjà offert parmi d'autres le très beau monologue de D dans la première version de Janine ensuite, et ses statues négatives dans la neige en attendant sa puberté. Beaucoup d'autres marqueront les œuvres suivantes, l'animal du temps, l'avant-dernier des hommes, l'infini romancier, entre beaucoup d'autres. Le spectacle qui se donne à voir dans le Babil n'est autre, comme l'annonce la didascalie introductive, que celui de la pensée créante de Valerne Weimar au travail. Nous assistons à la démonstration comique de l'insignifiance du monde, selon la formulation de Clément Rosset, que j'interprète ici, pour ma part, comme une non-signifiance tragique dont il ne faudrait quand même pas faire tout un dromadaire, comme le dirait Jean Tardieu dans Un monde pour un autre, car rien ne peut mieux la montrer et la démonter, cette insignifiance, que le rire qui brocarde et renverse toute forme de réalité officialisée dans la langue. Car si le rire vide le monde dans le vide du néant, j'ouvre les guillemets, en l'absence de nature à perdre, la dénaturation signifie non perte, mais délivrance. Clément Rosset, l'antinature. Et c'est bien une double délivrance qu'accomplit la parole novarinienne, celle de l'homme et celle de la matière, qu'elle libère du monde factice nommé par Adam. À la fin du drame de la vie, sommé de dire les noms de ceux qui l'ont précédé, Adam déroule la généalogie renversée des 2587 personnages qui ont pris part au drame comique, ou qui vont y prendre part, je ne sais plus si c'est début à la fin. Adam, premier des hommes, y figure le dernier. Le monde adamique se retourne comme un gant pour injecter dans le devenir de l'œuvre la multitude des noms à venir. La composition du Babil est intimement liée au personnage, comme le sera plus tard celle du drame de la vie. Tous les personnages novariniens sont les descendants des employés de l'atelier volant. Ce qui les caractérise, c'est leur instabilité nominale, à laquelle s'ajoute leur instabilité sexuelle et l'instabilité de leur existence même, dont témoigne le parcours inaugural de l'employé A, dont voici le bref résumé. Il est assommé par Boucault et meurt, puis appelé Grégoire, puis Robert, puis Louis, puis René, est pendu par Madame Bouche, réapparaît en somnambule, puis est appelé Bernard, puis Bob, puis Paulo. Les noms dans le Babil vont quitter le personnage et se fondre en se multipliant dans la parole qui les produit. Dans l'œuvre, ils n'ont d'autres fonctions que sonores, rythmiques et mélodiques. Ils sont comme la portée de la parole au sens musical du terme. Le retour d'un nom signifie le retour d'une voix, et il y a autant de voix que de noms. Dans les dialogues, les voix alternent. Chaque fois qu'un nouveau nom entre dans l'écriture, c'est une nouvelle voix qui se joint à la polyphonie générale de l'œuvre, car bien des voix franchissent les frontières des livres. Ces voix, on peut même les voir, car elles décrivent le dessin de la parole sur les pages des livres. Une voix, et c'est tout. Car les personnages ne représentent pas. Ils sont les porteurs des mots qu'ils disent, des paroles qu'ils s'échangent, des récits qu'ils composent à une, deux, trois voix, et même davantage, qui se croisent dans des compositions contrapuntiques. Ils sont en quelque sorte le support matériel de la parole, ils la portent. Mais aussi, les noms parlent. Dans la totalité des noms, on peut lire à peu près tous les thèmes récurrents de l'œuvre et ceux qui n'en étaient pas encore le deuxième. Ils sont comme les noms qu'Hésiode a donnés aux dieux, ils expriment et désignent leurs fonctions dans toutes les combinaisons possibles du nom propre et du nom de groupe. Valère Novarina dit aussi se souvenir de l'usage des surnoms chez les habitants de ces montagnes savoyardes qui, dans son enfance, se substituaient à leur nom civil. Ils étaient formés sur un événement de leur histoire ou une particularité de leur comportement, de leur configuration physique, etc. C'est ce que montrent les 2587 dessins qui font partie intégrante du drame de la vie, dont ils sont le prolongement graphique. Il n'y a qu'à les regarder de près. Plongeons, plonge. On voit les intérieurs du père dedans. L'enfant de nature trait une vache. Le docteur Marchfer prend curieusement la page avec son stéthoscope. L'angiste porte des ailes. Jean Durge tient d'une main le cadran d'une horloge sans aiguille et de l'autre une aiguille qui ressemble à un couteau. L'animal du temps est une drôle de flèche. Adam n'est qu'un gribouillis salopé. un sacrifice expérimental, donc la lutte des morts. Après ces premières œuvres, la question se pose de savoir pourquoi Valère Novarina s'est engagé dans la redoutable expérience que sera dans la foulée du Babil l'écriture de la lutte des morts de juillet 1973 à décembre 1974, œuvre dont il dit lui-même qu'il est son livre psychiatrique. Le journal écrit parallèlement, publié sous le titre « Le drame dans la langue française » et « Le théâtre des oreilles qui lui fait suite », témoigne de la radicalité de l'expérience, voire même du danger qu'elle a pu faire peser sur l'intégrité psychique de l'auteur. Et il n'est pas exclu, d'ailleurs, qu'elle ne fasse courir le même danger au lecteur courageux qui la lise de bout en bout. Dans les 24 chapitres, scènes, étapes, bombes d'action annoncées dans la quatrième de couverture, ce qu'on entend avant tout, c'est le boucan du corps. Les personnages se multiplient en permanence, mais se parlent peu l'un à l'autre. Les répliques et didascalies sont martelées, sans suite, sans rime ni raison, à une vitesse et avec une énergie effrénée. Dans le chaos radical qui émerge de ces étranges échanges parlés, le rire qui sous-tendait les œuvres antérieures bascule dans l'angoisse son envers. L'œuvre s'écrit sous l'effet de formidables poussées mentales, de verbalisations désordonnées, répertoriées dans la psychiatrie du XIXe siècle sous le terme de verbigération. Le plus flagrant dans les témoignages apportés par le théâtre des oreilles, c'est la volonté de Valère Novarina d'aggraver cette singularité pathologique obsessionnelle, je crois qu'on peut la dire pathologique, dont il est doué et victime, qui consiste à entendre incessamment des mots désarticulés en perpétuelle mutation. À Glamifère, personnage du Babil s'en plaignait déjà. Quoi, rien viendra qui lave, qui lave, qui lave, qui lave, qui lave l'obsession. Rien viendra qui m'enlèvera ces quatre pattes de Jean-Basson. Novarina met en place toutes les conditions de cette aggravation au cours de longs séjours solitaires dans son alpage, entouré d'animaux, se livrant corps et âme à cette passion verbale. Il se protège de toute reprise de contact avec la réalité par d'épuisants exercices physiques et un arsenal de rituels qui l'aide à étouffer toute velléité de pensée rationnelle et lui interdit toute idée structurée. Produire et descendre, tels sont ses seuls deux mots d'ordre. C'est quelque chose qui tombe du corps, dit-il en substance, c'est tout le rejeter, l'inutiliser, la matière brute inanimée qui chute, le matos brut inanimé qui chute, sans agencement scopique, du langue sans le spectaculaire. Ce sacrifice expérimental, ce cataclysme scientifique, comme il l'appelle lui-même, est aussi une forme de suicide, dans la mesure où évacuer la langue, c'est évacuer ce dont nous sommes faits, c'est donc se jeter soi-même avec l'eau du bain. Jean-Paul Sartre, dans sa préface au volume Poésie de Stéphane Mallarmé, formule une idée intéressante en regard de cette œuvre, de l'œuvre qui nous intéresse. Il écrit « Puisque le poème est suicide de l'homme et de la poésie, il faut que l'être se referme sur cette mort, il faut que le moment de la plénitude poétique corresponde à celui de l'annulation. » Le nihilisme de Valère Novarina n'est cependant pas un nihilisme sartrien. L'être ne s'y annule pas, Ce qui s'y annule, c'est principalement autrui. Attention à autrui, répète à 9 reprises Lilith ou Jlilith dans le Babil. C'est à ces autres qui ont formé le monde occidental et sa pensée, et qui continuent de dominer le monde, la langue, qu'il oppose sa parole propre, parlée de l'intérieur. Ces autres, il refuse d'en être, il en sort. C'est une sortie d'homme qui s'opère par l'instauration de son corps propre comme source unique de la parole. Laquelle se conjugue, alors sortie, source unique de sa parole, laquelle se conjugue au présent perpétuel du devenir. Il réalise en quelque sorte ce que Nietzsche considère dans Ecce Homo comme la suprême volonté de puissance. Je cite Nietzsche, « Imprimer au devenir le caractère de l'être, c'est la suprême volonté de puissance. » Et il ajoute « Que tout revienne, c'est le plus extrême rapprochement d'un monde du devenir avec celui de l'être, sommet de la contemplation. » Ce qui n'est pas quelque chose par rapport à Valère. Et chez Homo, le surhomme de Nietzsche serait-il l'homme de Valère? Pas vraiment, car si Novarena avait à poser la même question que Nietzsche, m'a-t-on compris? Il ne répondrait pas comme lui Dionysos contre le crucifié, mais le crucifié contre Dionysos, quoiqu'il n'ait rien contre Dionysos. Car l'homme de Valère, quelle que soit l'extrême puissance de sa volonté créatrice, n'est pas de ceux qui ont tué Dieu, mais de ceux qui l'appellent encore en dépit de son silence. Le sacrifice dont il s'agit dans la lutte des morts, bien que l'œuvre s'apparente à une sorte de terrifiante bacchanale, se réfère à l'évidence au sacrifice christique et à la problématique chrétienne de l'incarnation. Ce lien se développera dans les œuvres suivantes, notamment dans Devant la parole et presque tous les recueils de textes imprimés en marge des livres. À travers le sacrifice qui préside à son acte créateur ou recréateur, Novarina accomplit le retour du Verbe comme chair de l'homme. Répondant à la formule du prologue de l'évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair. Ne disposant pour ma part que de faibles compétences théologiques, je laisse au dictionnaire critique de théologie sous la direction de Jean-Yves Lacoste le soin de la commenter, cette formulation. Je cite, « Le prologue christianise le Verbe divin puisqu'il le lie à la personne concrète de Jésus. L'allusion à la Genèse est patente. Le Verbe est présenté comme l'acteur de tout acte créatrice. » Tous les mots comptent dans cette expression. Analogie, réponse, prière, renversement de la kénos Christi, tout cela est mystère, mais ça n'est pas la moindre des sources qui irriguent l'œuvre. En conclusion, je dirais que dans ce parcours se trace la voie du monde autre dans lequel nous mène l'œuvre de Valère Novarina. Le corps inerte de l'homme et du monde, enchâssé dans le langage, est immolé, en même temps que la pensée résonante, qui organise les sons en sens à travers le langage, tisse des liens fictifs entre les mots et les choses, et fonde l'exil de nos existences. Par un triple sacrifice, le sujet parlant, autrui et le monde, se désagrègent simultanément dans la force vive et créatrice d'une parole sans image, emportée dans le mouvement d'un temps indifféremment momentané et perpétuel. L'expérience sacrificielle engagée se joue sur une scène qui n'est ni celle du rite, ni celle du théâtre, mais sur la scène de la langue même. Novarina lui-même formule ainsi dans le théâtre des oreilles, c'est pas écrit pour le théâtre, mais vers le théâtre, avec l'acteur comme objet de désir. Dans ses premières œuvres, l'écriture novarinienne ne se constitue donc pas comme une œuvre dramaturgique, il n'est pas sûr même qu'elle ne puisse ou ne veuille se constituait jamais tout à fait comme œuvre, sinon comme œuvre suspendue, en attente. Car son écriture est le lieu d'histoires impossibles qui ne peuvent se représenter. La totalité de ce qui s'y accomplit se déploie dans l'inaltérable, intraduisible et ininterprétable forme parlée de ce qui se dit. Le texte ne creuse qu'une empreinte légère sur la page qui l'enregistre, et les mots délivrés, dont les livres ne font que se souvenir, restent suspendus au retour de l'acteur. Et l'acteur novarinien n'est pas un acteur ordinaire, pas plus que l'auteur n'en est un, car l'un et l'autre se confondent dans la formulation introductive du babil des classes dangereuses, le spectacle représente l'acteur au travail. L'acteur novarinien est, comme Louis de Funès, un acteur nul et parfait, pur agir. L'œuvre finie, c'est à lui qu'il revient de réitérer le sacrifice de tout ce qui le constitue comme individu socialement et affectivement identifiable. Il est appelé à ouvrir son corps anatomique, respirant et dansant, à la traversée d'une parole autre, qu'il ressuscite de sa mort provisoire.